jusqu'à 9h. Good morning business.
Et à 7h44, on ne vous cache pas que depuis 4 minutes, on discute avec l'un des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle. On vous promet, on va refaire le match. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien perdu. On est avec Antoine Borde, ancien directeur de l'intelligence artificielle chez Meta et vice-président d'une start-up européenne, Helsing. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez donc appliquer l'IA en matière de défense. On va d'abord parler de ça, puis après on vous posera des questions métaphysiques sur l'IA. Comment est-ce qu'on décide de quitter Meta pour aller effectivement dans une start-up européenne aussi passionnante soit-elle, prometteuse, avec un actionnaire comme Daniel Ek de Spotify? C'est ce choix, pourquoi vous l'avez fait?
Oui, il y a trois raisons. Il y a déjà un constat, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est en accélération actuellement, on le voit dans plein de secteurs, et c'est aussi le cas dans la défense. Et il y a quelque chose à faire dans la défense aujourd'hui. La deuxième raison, c'est aussi une raison de motivation et de je dirais, quête de sens. C'est-à-dire, en fait, la défense, c'est un sujet qui est important, qui devient de plus en plus important. Qu'on le veuille ou non, c'est au cœur de nos vies. Et je pense que c'est important d'essayer de passer son temps là-dessus. Et la troisième décision, c'est de rejoindre Helsing. Helsing, pourquoi? Parce que je pense que c'est l'entreprise en Europe qui peut être capable de nous faire passer un cap en termes d'IA pour la défense en Europe. Et je pourrais vous détailler pourquoi.
Mais justement, est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? C'est-à-dire que vous êtes au top de la technologie sur l'IA, et là, vous allez sur la défense, qui est un secteur qui est en retard sur le sujet. Vous allez leur appliquer des formules d'il y a 15 ans?
Alors, m'ennuyer, ça, je ne pense pas. Il y a deux enjeux. C'est-à-dire que, il faut être capable de comprendre les problèmes. Quoi qu'il arrive, moi, je suis un ingénieur de formation, etc. Quand on arrive, on essaie de comprendre un problème, de voir comment est-ce qu'on peut le résoudre. Et mon constat, quand j'ai regardé la défense, c'est de dire, oui, effectivement, c'est le moment maintenant pour lequel l'IA peut vraiment avoir un impact décisif sur la défense. Quand on part de ce point de vue-là, après, avec les équipes, on va essayer de trouver les meilleures solutions. Et ça, c'est pas du tout ennuyant, je peux vous l'assurer. Après, il y a un deuxième enjeu, c'est aussi de créer une entreprise de deep tech européenne. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai travaillé quasiment 10 ans à Meta avec des équipes fantastiques, dont une grande branche à Paris où j'étais. Mais je pense aussi qu'on a des talents et qu'on a des compétences en Europe pour construire des champions européens
c'est
du niveau mondial.
Quand on vous écoute, c'est presque un choix patriotique que vous avez fait là.
Il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que il y a quand même un peu un retournement. Moi, je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait à Meta pendant 9 ans. J'ai tout construit, j'ai tout connu. J'ai adoré, j'ai appris énormément. Je me dis qu'au bout d'un moment aussi, j'avais peut-être fait le tour de cette question et de m'engager dans un projet.
Là, c'est à qui vous offrez votre cerveau, quoi. Et là, clairement, c'est à la défense, à la France.
Et avec tous les enjeux éthiques qu'il y a derrière, parce que quand on parle d'intelligence artificielle liée à la défense, alors là, on va rentrer dans le dur, mais c'est tous les enjeux autour de ce qu'on appelle les robots tueurs, donc les systèmes d'armes, les taux autonomes. Donc, on intègre de l'IA dans des armes. Avec la décision qui va pouvoir peut-être être prise par l'algorithme de tirer sur quelqu'un, par exemple, c'est le genre de choses sur lesquelles vous travaillez et il y a beaucoup de pays qui essayent de réguler ça d'ailleurs.
La première question que j'ai posée aux fondateurs de l'entreprise quand ils m'ont contacté pour les rejoindre, c'était celle-ci.
Ah oui.
Est-ce qu'on va faire, est-ce que votre but c'est de faire des armes autonomes? Et la réponse était très claire et j'ai été d'ailleurs très ravi et même peut-être surpris de la profondeur de réflexion éthique qu'il y avait dans l'entreprise dès le départ. C'est aussi intéressant de rejoindre une entreprise qui a 2 ans, c'est-à-dire qui est née au moment où ces considérations éthiques étaient déjà dans le débat. Donc on commence pas à se dire on va faire un peu ce qu'on peut et après on va voir l'éthique est au départ. Et en particulier un des gros enjeux, c'est que nous on fait de l'aide à la décision pour les soldats, c'est-à-dire que la décision de faire ou pas une action offensive va toujours être prise par un humain.
Sauf que c'est vrai ce que vous dites, d'ailleurs vous avez vu que la Commission européenne commence à réfléchir à la réglementation de l'IA, mais on arrive quand même à un moment donné où l'IA est peut-être capable de s'auto-programmer. Et donc ce moment de bascule, il va falloir le maîtriser.
Oui, alors c'est que l'IA aussi c'est extrêmement vaste, on en parle beaucoup, on en parle pour des GPT-4, ChatGPT, j'en parle dans la défense. Comme vous l'avez dit, en fait les technologies d'IA qu'on va essayer de mettre dans la défense pour améliorer et pour être capable d'amplifier les capacités de nos systèmes de défense et aussi de simplifier la vie des soldats, hein, c'est amplifier et simplifier pour nous. C'est pas encore forcément GPT-4 qui est sorti il y a 2 semaines. Mmh. On a des méthodes qui sont des méthodes qui peuvent potentiellement générer du code. On va prendre des méthodes d'IA qui sont prouvées, qui ont marché aussi dans d'autres contextes de façon très fiable, etc. Et déjà de les appliquer dans le domaine de la défense, ça c'est déjà un gros changement.
On est pour vous à un moment de bascule, parce que nous on voit ça, c'est Anthony Morel qui nous raconte l'intelligence artificielle, mais on se dit peut-être qu'on est loin, on est en retard. Vous avez l'impression que là précisément il se passe quelque chose, qu'on est un point pivot?
Oui, alors de manière générale dans l'IA on a un point pivot. Je pense que depuis l'année dernière on voit une accélération des capacités des intelligences artificielles et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et que c'est dans le domaine public et que beaucoup plus de gens s'en servent sont en contact direct avec les IA, donc ça c'est sûr. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que l'IA a été fait partie de nos vies depuis bien plus longtemps que ça, sauf que souvent l'IA était en second plan. L'IA permet de faire des playlists automatiques sur de musique, l'IA permet de faire de la recommandation, permet de faire de la traduction, permet de faire de la reconnaissance de la classification d'images. Tout ça, c'est des usages qui sont dans plein d'applications dont on sert tout le temps, depuis plusieurs années. La différence depuis l'année dernière, c'est que on a des applications où l'IA est au-dessus, comme ChatGPT, on parle directement à l'IA.
Anthony, j'imagine que vous avez 10 000 clauses de non-divulgation, etc. chez Meta, mais qu'est-ce qu'ils ont dans les tuyaux ? On sait qu'ils ont un système qui s'appelle Llama, qui a déjà fuité sur Internet plus ou moins. Est-ce que c'est compétitif face à GPT-4, ce que va nous proposer Meta ? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez travaillé, j'imagine ?
Oui, alors, et c'est pas pour encore prendre ma fille patriotique, mais Llama, l'équipe qui fait Llama, est basée à Paris. Donc c'est pour ça, quand je dis construire des champions européens, les talents qui construisent l'équivalent de ChatGPT à Meta sont pour grande partie français, basés à Paris. Et c'est appris dans le système des grandes écoles, des universités françaises. Donc il y a
faut juste qu'ils changent d'employeur, si on vous comprend bien.
Non, parce que moi Meta fait une approche, et c'est pour répondre à votre question, une approche que je soutiens particulièrement, c'est l'approche de la transparence et de l'open sourcing, c'est-à-dire le système Llama qui est un équivalent de GPT ou de Bard.
Mieux ou pas ?
Pas de GPT-4, non, mais à peu près mieux que GPT-3, est open source pour des raisons universitaires. Et c'est gros enjeu de ces enjeux de société, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces modèles soient forcément fermés à double tour et que personne puisse avoir accès.
Une dernière question sur Helsing, hein. Donc dans le domaine de l'intelligence artificielle pour la défense, tout à l'heure vous disiez toutes vos appréhensions sur l'éthique de la société, vous avez été rassuré, mais est-ce que nos adversaires ont la même éthique ? Est-ce que les Chinois, les Russes vont faire attention à ce qu'effectivement que l'IA ne soit pas décisionnaire lorsqu'on a un robot tueur ?
Joker. Je pense que je peux parler de ce que je connais, de ce qu'on va faire et de comment on va le faire. Ce qui va être fait à l'extérieur est compliqué pour moi de répondre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il faut pas qu'on laisse la main non plus, et il faut qu'on soit capable de développer ces technologies ici pour au moins être capable d'être compétitif sur le champ de bataille, pour être capable de répliquer aussi.